Quoi de neuf docteur ? Un aperçu de la presse médicale concocté par le docteur Patrick Guenin et présenté par Claude Lamblin.
Claude Lamblin, bonjour.
Bonjour Denis.
Eh bien, peut-être vous souvenez-vous, amis éditeurs, que la semaine dernière, on parlait des enfants, des tout-petits, puisqu'il était question de l'allaitement maternel, et on avait découvert ce système d'échange de lait maternel un peu en direct par Facebook, et les dangers aussi que cela pouvait comporter. Et donc, aujourd'hui, on reste en compagnie des jeunes enfants pour évoquer une maladie qui est bien connue lorsqu'on a des tout-petits à la maison, la bronchiolite. Alors, comme nous avons souvent l'occasion de partager avec vous sur cette antenne la recherche médicale, les notions nouvelles abondent, eh bien il en est de même aussi concernant la bronchiolite où de nouvelles recommandations sont largement diffusées et notamment d'ailleurs auprès des masseurs kinésithérapeutes. Alors la bronchiolite du nourrisson, traitement actuel Claude.
Oui bien la bronchiolite du nourrisson est généralement une maladie bénigne. Elle apparaît lors de la première année de vie, le plus souvent entre 4 et 6 mois. D'origine virale, elle est due au virus syncytial respiratoire, le VSR. Cette maladie débute en général vers début novembre pour augmenter jusqu'au mois de janvier. Elle diminue ensuite à l'approche du printemps. Elle touche environ les deux tiers des enfants nés dans l'année, qui sont autour de 450 000 en France.
Alors donc, comment se présente un nourrisson atteint de bronchiolite ? Il se caractérise tout d'abord par un simple rhume, puis une fièvre de moyenne intensité qui apparaît, suivie d'une toux un peu spasmodique, semblable à de l'asthme. L'enfant présente alors des difficultés respiratoires, il a du mal à manger et à dormir, et cette situation peut paraître grave et très préoccupante pour les enfants comme pour les parents. De ce fait, il n'est pas rare, ces mêmes parents, qu'ils choisissent de faire hospitaliser leur enfant via les urgences le plus souvent, et d'ailleurs avec ou sans l'accord de leur médecin traitant.
Toutefois, au fur et à mesure que la maladie est mieux cernée, la prise en charge est mieux codifiée. Les différentes études réalisées ont montré que, contrairement à ce que l'on faisait il y a quelques années, il est souhaitable de renoncer au traitement trop puissant. Ces recherches ont notamment mené à abandonner la prescription d'antibiotiques, cette maladie étant d'origine virale. Puis ce fut le tour des corticoïdes, d'être utilisés avec davantage de parcimonie. Il a été prouvé en effet qu'ils ne soulageaient pas le spasme bronchiolitique, alors qu'ils agissaient extrêmement bien sur le spasme de l'asthme. De même furent également supprimés du traitement de la bronchiolite les antitussifs et les fluidifiants des expectorations bronchiques. Des études hospitalières faites en double aveugle ayant démontré l'absence de bénéfices. Voici donc une évolution importante au cours des années et le pédiatre que je suis, dit le docteur Guenin, a dû s'adapter aux nouvelles recommandations du monde de la médecine. D'une ordonnance comportant des antibiotiques, de la cortisone, des antitussifs, des fluidifiants, il a fallu passer à une simple prescription de lavage des fosses nasales, assortie d'une surveillance clinique de l'enfant, soit par les parents, soit par un personnel paramédical, comme infirmière, puéricultrice ou kinésithérapeute. Cette évolution dans le traitement de la bronchiolite est une bonne démonstration des erreurs possibles en médecine. Heureusement, les études épidémiologiques régulières les corrigent au fur et à mesure et la communauté scientifique prend connaissance des résultats pour transmission. Cela nous apprend l'humilité et le besoin de remettre en question notre pratique médicale régulièrement, dit toujours le docteur Guenin. De même que ces études ont mené à une modification des prescriptions, elles montrent qu'il faut distinguer deux formes d'une même maladie dont la prise en charge alors sera différente. La première, une forme clinique simple. L'enfant restera à domicile sous le contrôle des parents et pourquoi pas du kinésithérapeute. Au bout de 10 jours, il sera guéri sans séquelles, si ce n'est peut-être une toux résiduelle. La seconde, une forme grave, concernant essentiellement des nourrissons plus fragiles. On peut citer les prématurés, les nourrissons de moins de 4 ou 5 mois, les enfants immunodéprimés ou qui souffrent de problèmes de malformation cardiaque qui étaient, jusqu'à l'épidémie, bien compensés. Tous ces enfants présenteront vers le 4e ou 5e jour des signes d'aggravation tels que perte de poids, souffrance respiratoire, fièvre élevée, etc. Bon, ils devront alors être hospitalisés afin d'éviter le pire, le taux de mortalité étant quand même de 2%. Ils bénéficieront ainsi d'une prise en charge adaptée à leur état, oxygène, alimentation, hydratation adéquate, etc. Il me semblait important, dit toujours le docteur Guenin, d'évoquer cette maladie fréquente qui peut déstabiliser les parents, mais aussi parce que je suis tombé sur un article qui m'a interpellé.
Et cet article s'appelle « Bronchiolite du nourrisson, la kinésithérapie respiratoire n'est plus recommandée par la Haute Autorité de Santé, l'HAS ».
Oui, depuis de nombreuses années, la pertinence du recours à la kinésithérapie est l'objet de controverses. Alors que les méthodes de clapping et de vibration ont été peu à peu abandonnées partout dans le monde en raison de leur inefficacité et de leur dangerosité potentielle, l'augmentation du flux expiratoire est privilégiée en France et en Belgique. Or, les bénéfices de cette pratique n'ont jamais pu être prouvés. Et une à une, les recommandations nationales et internationales écartent la kinésithérapie de la prise en charge des nourrissons atteints de bronchiolite, mais sauf en France. Sans entrer dans le débat, en tant que praticien, il me semble, dit le docteur Guenin, que la présence d'un kinésithérapeute peut être un excellent relais assurant un suivi médical tout en maintenant l'enfant dans son milieu de vie habituel. On peut également penser que cette présence peut rassurer les parents inquiets, permettant un moindre recours aux services d'urgence. En conclusion, la Haute Autorité de Santé n'interdit pas la pratique de la kiné respiratoire, mais ne recommande pas une prise en charge systématique. La professeure Dominique Guludec, présidente de la Haute Autorité de Santé, conclut ainsi. Le rôle des kinésithérapeutes est amené à évoluer vers la surveillance des nourrissons et l'éducation thérapeutique des parents. Comme nous avons souvent eu l'occasion de le dire à ce micro, la médecine est une science en constante évolution. Et notre projet à nous est de vous tenir au courant au fil des ans.
Il s'agissait d'un article de Aurélie Haroche dans un gym en ligne du 14 novembre 2019. La prochaine fois, on restera en compagnie des enfants, mais il sera question d'obésité cette fois.
C'était Quoi de neuf docteur, présenté par Claude Lamblin. Vous pouvez retrouver cette chronique en podcast ou nous en demander les articles de presse.